Les samedis se succèdent et se ressemblent. Liberté ! Liberté ! Depuis trois semaines, malgré les vacances, les manifestations contre le pass sanitaire drainent de plus en plus de monde.
Personnellement, je ne suis pas contre les vaccins, je ne suis pas du tout anti-vax, mais je suis contre le fait que on oblige d'abord la population à se vacciner et qu'on se permette de nier le principe de précaution.
Au-delà des manifestants, plus d'un tiers de l'opinion publique déclare sa sympathie pour ce mouvement. Opposé à la vaccination ou pas, ce qui semble les rassembler, c'est ce refus de la verticalité, des décisions décrétées par les élites, comme ils disent.
Je suis contre cette dictature imposée actuellement. Il y en a un ras-le-bol, il faut que ça cesse. Il faut que le gouvernement ouvre les yeux, qu'ils arrêtent de tout nous imposer et qu'on puisse enfin repartir de l'avant.
Au même moment, une autre partie de la population a préféré, elle, suivre les recommandations du président et accélérer sa prise de rendez-vous pour se faire vacciner.
Ça me permettra en août de mieux profiter des cafés, des restaurants, des sorties, tout ça. Puis même pour mon entourage, tout simplement.
Aujourd'hui, deux France semblent se faire face. Alors, qui sont les réfractaires? Peut-on dresser un profil type des antipasses sanitaires? Est-ce que ce mouvement, sans leader ni programme, peut représenter un danger pour le pouvoir politique?
L'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les autres pays européens a-t-elle suscité des mouvements de contestation similaires aux nôtres? Alors Emmanuel Soufi, le pass sanitaire européen, il est effectif depuis le 1er juillet. Est-ce qu'on sait comment ça s'est passé dans les autres pays?
Alors, faut pas croire qu'il n'y a qu'en France où on a un peu râlé et tiqué sur ces obligations de passe. Alors, de montrer à chaque fois soit un test négatif, soit une attestation de rétablissement, soit une attestation vaccinale. Il y a eu pas mal de défilés, de rassemblements dans différents pays européens. En Italie, donc pas très loin de chez nous. À Naples, Milan, Gênes, en Allemagne aussi, qui est pourtant un pays où la règle est souvent assez peu contestée. Un pays de révolutionnaires que les Français. Et en fait, là, vous avez même eu des grosses manifestations à Berlin qui étaient au départ interdites, qui se sont quand même déroulées, et à chaque fois avec une forme de violence, de radicalité qui n'est pas propre à la France. En fait, voilà, faut relativiser en fait les mouvements que nous on connaît. Alors c'est vrai qu'ils sont assez massifs pour la période, hein, juillet, oui. Août. Normalement, on est plutôt à la plage et on bat pas vraiment le pavé. Mais en fait, ça montre un peu la cristallisation en fait de toutes ces questions qui touchent à la santé.
Alors ces manifestants, vous l'avez dit, sont de plus en plus nombreux. Benjamin, et c'est votre chiffre du jour.
Oui, 204 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, ont donc manifesté samedi dernier contre l'extension du pass sanitaire. Ils étaient 161 000 la semaine précédente et 110 000 il y a deux semaines. Ce chiffre augmente donc, Jérôme Fourquet. Et on est en plein été, vous l'avez dit, Emmanuel Soufi. Est-ce que ça augure d'une mobilisation plus forte encore à la rentrée?
Alors avant la rentrée, il faudra regarder déjà ce qui va se passer samedi, oui, suite à la décision du Conseil constitutionnel.
Principalement validé.
Validé et voir si cette courbe ascendante, en plein chassé-croisé entre juilletistes et haoutiens, se maintient. Le parallèle peut être fait quand même avec la crise des Gilets jaunes, oui, parce que j'ai regardé les chiffres, oui, de mobilisation dans les trois premiers samedis de Gilets jaunes. La tendance était exactement inverse, c'est-à-dire qu'on était passé de 288 000 le premier samedi de Gilets jaunes, le 17 novembre, à 136 000 le troisième samedi. Donc on baissait. Alors que là, on monte. Sauf que, autre différence, à l'époque, la mobilisation était moindre dans la rue, mais était très soutenue dans l'opinion publique. 70% de Français continuaient de soutenir les Gilets jaunes au bout de trois semaines, alors que, d'après nos données, on a à peine un gros tiers des Français qui, aujourd'hui, les soutiennent. Donc, qu'est-ce à dire? Bien, c'est que c'est une minorité, mais qui est très déterminée, qui n'entend pas lâcher, et qui n'a pas, pour l'instant, un soutien majoritaire, même si un tiers de la population qui soutient, ce n'est pas rien, et ça donne de quoi alimenter un vivier important. Alors, si on reste juste un instant sur ces chiffres, c'est 204 000 sur 150 cortèges dans 150 villes. Hein, ce n'est pas uniquement une grande manifestation. Sûr, ouais,
il y avait des villes moyennes où il y avait quand même
des villes moyennes où il y avait pas mal de monde. Et donc tout ça doit quand même interroger, encore une fois, en plein cœur de l'été, sur la capacité de mobilisation, la détermination de ce public, certes minoritaire, mais qui est très, très remonté.
Sans leader.
Rudy Hochstein, il y a 37% donc des Français qui soutiennent ce mouvement. Et quand on regarde, il y a 37% de Français qui n'ont reçu aucune dose de vaccin. Est-ce qu'il y a un lien, finalement, entre les deux?
Alors ça, effectivement, c'est compliqué de l'affirmer, mais on peut effectivement en faire l'hypothèse, et on en parlait avec Jérôme Fourquet juste avant, il y a sans doute un socle incompressible de gens absolument réfractaires à la vaccination. Il s'agira de déterminer où ils se situent, est-ce que c'est 15-20%. Il y a sans doute des gens qui participent à ces manifestations et qui finalement essaient de jouer un peu le barreau d'honneur. Le pass sanitaire est entré en vigueur lundi prochain. Est-ce qu'ils continueront à manifester après? C'est pas certain. Peut-être que finalement, ils iront chercher leur pass sanitaire et se faire vacciner. Donc la question est de savoir combien ils représentent et leur pouvoir de nuisance à terme. Parce que c'est un mouvement qui a quand même des formes inquiétantes dans son expression.
C'est la liberté qui revient à chaque fois, avec des fois des slogans assez, assez brutaux. Le pass nazitaire, par exemple. On va pas revenir sur les étoiles jaunes, mais c'est vrai que cette espèce de diagonale entre qui va du sud-est comme ça, qui est pourtant pas une diagonale habituelle, Jérôme Fourquet, sur les inégalités sociales ou d'accès aux soins ou de manque d'accès aux infrastructures. Dans les gilets jaunes, il y avait beaucoup ça. C'était j'habite une ville périurbaine, j'ai du mal à rejoindre, je suis obligée de prendre ma voiture pour aller travailler, donc c'est des frais incompressibles, etc. Eux, c'était les gilets jaunes, c'était avoir la liberté de dépenser, c'est-à-dire j'ai un pouvoir d'achat de plus en plus restreint et je suis sous la contrainte des taxes et de la fiscalité et des impôts. Et là, on le retrouve aussi, cette liberté, alors non pas de dépenser, mais ma liberté, mon libre arbitre, je me vaccine si je veux, oui. Je me fais soigner si je veux. Et c'est une absence un peu de collectif, c'est vraiment regarder, alors les gilets jaunes, c'était mon pouvoir d'achat à moi, donc avec la perte de sens de l'impôt, et aujourd'hui, ces manifestations qui sont sur l'absence de sens à la vaccination. Et de responsabilité du collectif.
Voilà. En fait, elle nous montre non pas la France des déserts médicaux, parce qu'on sait qu'il y a plus de médecins dans le sud que dans le nord. Donc c'est des raisons historiques assez anciennes. Il y a l'idée d'un sud qui aurait été mis au pas par le nord, par la capitale. Il y a le souvenir des guerres de religion, le souvenir de la résistance, le souvenir des maquisards, etc., etc., qui est souvent réactivé. Et puis, ce grand sud-est, en gros de l'Ariège à la Drôme, mêle deux populations. On a dans l'arrière-pays une frange écolo-alternative, qui, pour des raisons culturelles, philosophiques, est très hostile à la vaccination. Et plus sur le littoral, on va retrouver un public qui est plus proche du Rassemblement national, dont on sait que, d'après les enquêtes, il est moins vacciné que la moyenne et aussi plus réfractaire. Mais donc, c'est deux formes d'insoumission, quelque part, ou de révolte qui s'expriment plus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec une question comme la vaccination, on fait remonter à la surface une espèce de tempérament ou de culture régionale qui, sinon, serait un peu, qui serait un peu effacée. Et un peu comme ce que disait Rudy aussi, c'est aussi la capacité de ce mouvement à agréger des publics sociologiquement et idéologiquement extrêmement divers.
C'est un peu des manifestations. Avec les gilets jaunes, parce qu'il y a quand même des CSP+, dans ces défilés.
Alors voilà, socialement, c'est sans doute plus bigarré aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. Et c'est un peu une manifestation qu'on pourrait qualifier d'auberge espagnole. Chacun vient avec son profil. Alors c'est aussi la force du mouvement. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de banderole unitaire, chacun peut s'y retrouver, et chacun peut venir. On rappelle que le dernier samedi à Paris, il y avait 4 cortèges différents pour couvrir un petit peu tout le spectre de la contestation.
Mais pas d'unité, en fait,
Voilà, mais l'unité, si elle existe, c'est dans l'hostilité au gouvernement. Ouais. On a des slogans anti-gouvernementaux, mais surtout anti-Macron, qui sont très appuyés. Et c'est ça qui fait le lien entre eux.
Il y a une désinformation, on en parle beaucoup.
Alors la désinformation, il y a effectivement deux phénomènes. Il y a la désinformation avec les réseaux anti-vax, complotistes même, qui sont très actifs sur Internet, sur les réseaux sociaux depuis longtemps maintenant. Donc c'est aussi, si vous voulez, le résultat, la conséquence de tout cela. Il ne faut pas le négliger. Et puis la mésinformation, qui est un petit peu différente, et qui est dans ce brouhaha médiatique, dans ce que l'OMS avait appelé l'infodémie, l'incapacité de beaucoup d'entre nous, et c'est très compliqué, de s'informer correctement sur le virus, le vaccin, les récents développements, etc. Il y a beaucoup de confusion. Si vous parlez avec des gens très simplement qui sont pas très engagés pour la vaccination, vous apercevez assez rapidement qu'il y a beaucoup d'informations dont ils ne disposent même pas, dont ils n'ont même pas idée. Donc voilà, c'est pas forcément une intoxication voyez, par la désinformation et par la propagande.
Alors, aux États-Unis, Joe Biden, lui, a fait un choix légèrement différent. Ce n'est pas lui qui s'adresse directement aux jeunes. En revanche, le gouvernement a payé 10 influenceurs pour inciter à la vaccination. Jérôme Fourquet, est-ce que ça marche de s'adresser aux jeunes via les réseaux sociaux concrètement?
Alors, il est coutumier du fait, notre président. Oui. On rappellera la vidéo avec McFly et Carlito. Oui. Donc, il a à cœur de s'adresser à ce public-là. Il considère aussi cette spécificité de l'époque et de ce quinquennat qu'il faut tout faire soi-même et qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, il n'a pas délégué à d'autres. Mmh. Alors, ça renforce aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la polarisation autour de sa personne. C'est-à-dire, en pour ou en contre, c'est quand même lui qui est à la manœuvre. Alors, vous avez raison, les chiffres montrent qu'il y a un retard de vaccination important chez les jeunes, sans même parler des adolescents, si on prend juste les jeunes adultes, à la fois parce que ça a sans doute été ouvert plus tard, mais aussi parce qu'on a dit depuis le début de cette pandémie qu'ils étaient moins touchés que les autres. Et donc, sans doute, certains se sont sentis moins vulnérables et moins fragiles. Et donc, cette adresse du président de la République, je ne sais pas sur les réseaux sociaux si ça va fonctionner. En tout cas, la communication classique, le 12 juillet dernier, avait surtout marché chez les jeunes, hein, les moins de 35 ans qui avaient été la plus grosse tranche de la population à prendre des rendez-vous sur la fameuse plateforme Doctolib suite à l'injonction présidentielle. Donc cette première séquence de communication avait visé juste. Il faut attendre maintenant de voir si auprès des jeunes ça va fonctionner. On regardera comment évoluera la courbe des injections dans les semaines qui viennent.
Benjamin.
Pour revenir à ces antipasses sanitaires, Emmanuel Soufi, ils ont du mal à trouver des relais parmi les grands partis tout de même, contrairement par exemple aux Gilets jaunes, parce que là, certes, Nicolas Dupont-Aignan essaie de récupérer le mouvement, mais on sent bien Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen marcher sur des œufs quand même.
Ils ne vont peut-être pas défiler à leur côté, mais ils relaient quand même les appels à manifester, enfin, du côté des Insoumis. Jean-Luc Mélenchon, peut-être pas lui directement, mais quand même un petit peu, mais les militants relaient. Les militants sont aussi présents, pas forcément avec des drapeaux et des slogans et une identité insoumise, mais ils sont quand même là. Et puis, politiquement, c'est assez étonnant cette similitude, en fait, un peu anti-vaccinale. Ça revient encore à chaque fois sur le terrain de la liberté individuelle entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc, voilà, bon, il y a quand même Florian Philippot, hein, qui se dit qu'il va jouer son quart d'heure, mais depuis un an, en fait. Hein, à chaque fois, anti-masque, anti-geste barrière, etc. Là, une salve de tweets après la décision du Conseil constitutionnel qui valide quand même pour l'essentiel le PJL du gouvernement. Donc et voilà, c'est moi cette similitude entre l'extrême droite et l'extrême gauche sur des slogans qui sont pareils. Il y a eu quand même des condamnations, mais assez timides, hein, sur l'étoile jaune du côté du camp de Mélenchon. C'est assez surprenant et on se demande ce que ça peut produire. Vous voyez, c'est un peu une forme de pas de Trumpiste à la française, en fait, où tout se mélange et encore une fois, tous les partis se sentent un peu perdus là-dedans.
Ouais. Alors, vous direz, je t'aide en même temps. Alors, les gens qui sont dans la rue aujourd'hui nous disent qu'il y a une discrimination et c'est ça qu'ils condamnent. S'il y a la vaccination obligatoire, comment pourrait-il réagir? Parce qu'il n'y aurait certes plus de discrimination, mais il y aurait une obligation.
Oui, mais là ce serait, il réagirait très mal.
Peut gonfler les effectifs, les rangs de ces mobilisations.
Si on parle de vaccination obligatoire, ça veut dire qu'on contraindrait physiquement les gens à se faire vacciner? On ne pourrait la contrôler que par un pass sanitaire, que par un justificatif. Donc de toute façon, je comprends même pas ce débat.
C'est compliqué.
Il ne s'agit pas d'aller vacciner les gens chez eux contre leur gré. Personne ne propose ça nulle part, et heureusement d'ailleurs. Si vous voulez, il y a quelque chose qui revient très souvent chez les manifestants anti-pass sanitaire, c'est de dire, oulala, attention, c'est pas parce qu'on est contre le pass sanitaire qu'on est contre la vaccination. Je veux bien. Il y a effectivement des gens vaccinés qui manifestent contre le pass sanitaire. Mais d'abord, ils sont peu nombreux. Oui. Ensuite, il n'est pas dit qu'ils sont allés de très bon cœur se faire vacciner. Et enfin, je veux dire, que disent-ils contre les gens qui manifestent à côté d'eux, qui nous expliquent que le vaccin est un poison, qui nous expliquent qu'on a basculé en dictature, qui nous expliquent que, par exemple, tout ça est un complot, parce qu'on voit des slogans explicitement complotistes aussi dans ces manifestations. Donc voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose qui a été scandé dans ces manifestations. On n'est pas vacciné. Vous voyez, donc.
Bien, souvent, la polio d'ailleurs a été éradiquée, mais Jérôme Fourquet, à l'époque, on n'a pas de souvenir de manifestations, de révoltes anti-vaccination obligatoire. Pourquoi là, cette société a-t-elle changé à ce point-là?
Sans doute parce qu'il y avait une défiance qui était moins forte vis-à-vis du pouvoir politique, vis-à-vis aussi de la science. Hein, d'ailleurs, vous voyez que le professeur il prend la parole dans un laboratoire, etc. Donc, il y a tout ce magistère qui, en fait, s'est délité progressivement. Alors,